Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citeclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette édition littérature où nous allons chroniquer le volume de Galaxy's Edge sorti chez Panini Comics. Je suis Loïc, je suis accompagné de Francis, une fois n'est pas coutume. Bonsoir Francis.
On va dire bon matin chez nous, Loïc, bon matin.
Bon matin, en fait je te dis bonsoir, mais c'est même pas du tout le soir parce qu'on est en plein après-midi. Donc bonjour à toi, ou bonsoir, ou bon matin. Voilà, on va continuer, on est un petit peu à la bourre sur nos émissions littérature, puisque nous allons chroniquer aujourd'hui un volume qui est paru en juin donc 2020. Il a été assez difficile de rattraper tout le retard suite à la pandémie, au décalage des titres, aux lectures, au fait de trouver un moment pour se capter ensemble. Donc voilà, maintenant, je voulais faire avant de sauter en hyperespace, je voulais faire justement cette petite précision. Du fait de ce retard, nous allons nous garder d'annoncer les plus récentes émissions Star Wars en direct, afin de ne pas créer un décalage chronologique à chaque fois que, chers auditeurs, vous entendrez cet épisode qui peut-être sera publié dans un ordre ou dans un autre. Voilà, ceci étant donc précisé, Francis, attache ta ceinture. On passe la barre de l'hyperespace.
Capture 267 à tous les appareils, saut dans l'hyperespace!
Voilà, c'est parti donc pour cette review donc de Galaxy's Edge avec Ethan Sachs au scénario et Will Slaney au dessin. Bah, Francis, tu vas nous faire un petit résumé rapide et puis tu pourras enchaîner par ta critique de ce que tu as pensé de ces épisodes.
Oui, donc rappelons, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi Galaxy's Edge, le titre de l'album, on comprend que ça va se passer sur Batuu. Et résumons rapidement que Galaxy's Edge, c'est le nom des parcs d'attractions que Disney a construit à l'effigie de Star Wars depuis quelques années, en Californie, en Floride, et si j'ai bien compris, sous peu, ou en tout cas éventuellement à Paris.
Sous une autre forme.
Ah, sous une autre forme, tu vois, je savais pas que ça allait pas être une copie conforme. Comme les deux autres parcs le sont.
Ça sera beaucoup à plus petite échelle, quand même.
Ah, ok, ouais, il y aurait peut-être moins de terrain disponible.
et moins d'argent aussi.
Ok. Bref, donc c'est ça, et Galaxy's Edge, tout se passe dans un avant-poste nommé Batuu, qu'on a découvert, je sais plus dans quelle œuvre canon la première fois, peut-être dans un des... dans le premier Tron, peut-être. De Timothy Zahn, là, donc le roman intitulé Just Round, qui allait avec Anakin. Non, c'était en deuxième.
Non, c'est le deuxième.
Dans Alliance. Hein.
C'est le deuxième. Alliance.
Donc, c'est ça qui allait.
Je sais pas si c'était pas apparu déjà dans Solo avant Throne. J'ai du mal à me repérer par rapport aux dates de sortie, mais on a regardé Solo hier et il le mentionne Black Spire.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Bref, depuis que les projets ont été lancés par Disney, c'est partout. Donc Disney veut rentabiliser ses parcs. Cette œuvre-là est inscrite tout à fait dans cette mission-là. C'est vraiment, le but était d'avoir quelques œuvres attachées, évidemment pour attirer les gens au parc, et aussi pour pouvoir les vendre au parc, donc pour pouvoir vendre des récits. Les gens qui dorment à l'hôtel le soir, là, qui ont leur propre hôtel, tout ça, peuvent se plonger dans cette immersion-là. On avait fait une émission avec Cécilie il y a... un peu plus d'un an sur tous les œuvres qui étaient sorties, trois livres en lien avec Galaxy's Edge et cette série de BD-là. Donc, à l'époque, j'en avais brièvement touché quelques mots dans l'émission. Là. Mais c'est ça, aujourd'hui, on va vous parler de l'album en tant que tel, donc les cinq récits maintenant disponibles en français. On suit, en fait, au présent, on va dire, le présent, faut mentionner à Galaxy's Edge, Tout l'action, l'immersion, tout ça se passe à l'époque du premier ordre et de la résistance, entre l'épisode 8 et 9, si je ne me trompe pas. Donc, un petit peu après l'épisode 8, on suit toutes sortes de personnages. Mais ici, on va suivre une équipe de, j'allais dire de chasseurs de primes, mais c'est-tu peut-être plus des contrebandiers, en tout cas un entre-deux, des vauriens, comme on dit, dans l'univers de Star Wars, et ceux-ci sont à la j'allais dire à la recherche, mais en fait, c'est une simple mission pour eux. Là, ont été engagés par Doc Ondar, un Itorien local, là, pour retrouver un artefact. Et bref, ça va être le fil rouge de l'ensemble de l'album, des 5 numéros au présent. Et dans leur recherche, ils vont avoir l'occasion de discuter avec plein de gens qui vont nous faire un récit flashback, là, comme on a l'habitude de plus en plus dans le canon Star Wars, dans lequel on va suivre différents personnages bien connus. Donc, en couverture, on peut voir Han Solo et Chewbacca. On en a un aussi sur Greedo. On en a un sur... deux, si on peut dire, avec Dr. Aphra. Je crois qu'on va même croiser à un moment les gardiens des Wills avec pas Baze mais Chirrut et Moe. Je crois que j'en oublie un. Ben, on a Hondo Ohnaka qui lui est au présent et aussi on va l'avoir dans les flashbacks, là. Donc le pirate Hondo Ohnaka qu'on a découvert dans The Clone Wars, puis après dans Rebels, et qui est vraiment un peu le centre d'attraction, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas qui est au centre des récits à Galaxy's Edge. Donc évidemment, là, un des personnages favoris de Dave Filoni. Fait que bref, c'est ça. Et évidemment, on a le premier ordre qui va se mêler de la partie. On va avoir Kylo Ren qui va apparaître là-dedans. Est-ce que j'oublie une des histoires, là, et que je crois que j'en oublie une?
Non, je crois que c'est pas mal exhaustif. Donc, en fait, c'est presque une série anthologique,
ouais.
Comme on a traité par le passé, puisque là, le fil rouge, il est vraiment prétexte à raconter les petites histoires dans l'histoire.
Ouais.
Et tu l'as pas précisé, mais Doc Ankar, en fait, est le propriétaire d'une des boutiques du parc.
Un antiquaire.
Sorte de, voilà, un antiquaire. Donc, c'est l'endroit parfait où croiser des cristaux Kyber, des artefacts Sith et compagnie.
Ouais, c'est ça, dans le fond, ils sont à la poursuite d'un espèce d'ancien, pas un sabre, mais une épée.
Une épée?
Ouais, mais avec vraiment une lame, là, mais donc antérieure à l'époque des sabres laser. Bref, c'est ça, je pense pas que ce soit la peine de tomber plus dans les détails de l'histoire, ou avoir des petits retournements de situation, et Doc Ondar est loin d'être le plus, honnête des personnages. C'est un personnage qu'on a croisé aussi dans d'autres romans, même des romans qui n'ont pas le label, là, Galaxy's Edge, là, je pense entre autres au Collectionneur, qui était sorti l'année dernière, très bon petit roman, là, que je vous conseille. Donc, qui avait été pas mal apprécié, si je me souviens bien, des différentes personnes de l'équipe de Star Wars en direct. Fait que bref, on a toutes sortes d'histoires vraiment sympathiques là-dedans. Peut-être en parler plus en critique, là, mais c'est ça. Comme tu dis, il y a un petit côté anthologie, one-shot, mais avec des histoires encore plus courtes qu'un one-shot, parce que ça prend quelques pages pour la phase au présent. Fait que c'est ça, ça fait pas des gros récits longs, mais c'est sympathique. Moi, j'ai envie de dire, c'est sympathique. Fait que ce serait ça pour le résumé de cet album-là. Je veux pas non plus vendre le punch final, là, mais peut-être mentionner, c'est la même équipe de mercenaires, chasseurs de primes, contrebandiers, peu importe, qu'on avait dans la série Allegiance, donc qui est sortie en français avant. Donc Panini a fait l'effort de sortir Allegiance beaucoup plus rapidement. Je pense que c'était sorti juste 4 semaines après la sortie anglaise, pour fitter avec l'épisode 9, donc l'ascension de Skywalker, alors qu'en anglais c'était sorti après. Donc les comics Galaxy's Edge étaient sortis avant, mais c'est ça, c'est la même équipe qu'on retrouvait dans Allegiance, pour ceux qui l'auraient lu et ou apprécié. Je sais que c'était pas mon cas, mais...
ou qui s'en souviennent déjà, ça sera déjà bien.
Ouais, exactement, parce que c'est ça, c'était dispensable comme voilà. Récit, ouais. Ouais.
Un des nombreux récits dispensables du canon, malheureusement.
Sinon, je peux peut-être mentionner, là, c'est ça, du point de vue plus technique, comme j'ai mentionné, on parle de 5 comics ici, donc un 112 pages. Chez Panini, on va parler d'un 17€ là, pour l'album. Au Québec, j'imagine qu'on est dans les 25-30$ plus taxes, évidemment. Le tout se passe en l'année plus 35, comme je disais, le présent, là, on est entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Au scénario, on a Ethan Sachs, qu'on a vu quelques fois déjà là, sur du Star Wars. Et au dessin, on a Will Sliney aussi, qu'on avait déjà croisé par le passé. Des couvertures de Rod Reis et Tommy Lee Edwards. On aura peut-être l'occasion d'en reparler en cours d'épisode.
Eh ben écoute, si tu as envie de glisser vers ta critique, et peut-être est-ce que nous ne chroniquerions pas rapidement en fait chacune des petites histoires?
Oui, si tu veux, j'aurais peut-être pas nécessairement grand-chose à dire sur chacune, là, certaines plus que d'autres, là, j'imagine que c'est la même chose pour toi. Je mentionnerais peut-être au niveau des attentes et des choses comme ça, c'est certain, je sais pas pour toi, moi quand je vois... quelque chose comme ça, un produit pur, ben, un produit à la base, une idée marketing, là, vraiment pour vendre le parc ou pour, ben, c'est certain que je pars avec une certaine appréhension, que ce soit pour un jeu vidéo ou un, c'est ça, quand c'est, c'est sûr qu'on se dit, la qualité va-tu être là?
Ben, c'est là où on va voir, en fait, si c'est un travail de commande purement marketing ou si derrière les gens, enfin, les, l'auteur, en tout cas, a travaillé la chose pour rendre ça, malgré tout, assez intéressant.
Ouais, ben, en fait, j'ai l'impression que dans... Puis, tu sais, c'est depuis toujours, là, je veux dire, chaque fois qu'ils ont fait des produits commerciaux au cinéma, en littérature, peu importe, souvent, ça va être le temps qui est laissé à l'artiste pour pondre quelque chose de qualité. Hein, c'est souvent ça, le problème. Quand c'est associé à un film, ben, il y a un deadline, il faut que ça sorte en même temps que le film, etc. Donc ici, ça fitait avec l'ouverture des parcs là, à l'époque, en... je me souviens plus exactement, c'était quand, là, ça fait déjà deux ans certains. Mais c'est ça, mais dès le départ, par les différentes couvertures, on savait qu'on allait retrouver des gens qu'on aime retrouver. T'sais. Là, en couverture de l'album, on a Han Solo et Chewie. Je pense qu'un des premiers numéros aussi, c'est avec Greedo, fait que un personnage qu'on voit quand même plus rarement dans le canon, fait que ça pique quand même la curiosité. Donc, en termes d'artistes, ben c'est ça, Ethan Sachs, on l'avait aussi sur Allégeance que j'ai mentionné tantôt. Il avait fait aussi un numéro, je crois, de Age of Republic, donc les fameuses anthologies que j'adorais, ceux qui écoutent les épisodes vont s'en souvenir. Il avait fait celui sur Mace Windu, donc je sais pas si tu te souviens.
Ah oui, c'est en plus le meilleur. Hein.
Ouais. Et il travaille actuellement, dans le fond, maintenant, sur la série Bounty Hunters, qu'on aura l'occasion de critiquer dans une autre émission, mais une série qui a l'air de plaire quand même à pas mal de monde. Sinon, Sliney, on l'avait vu je crois sur des couvertures jusqu'à maintenant avec Beckett et avec Beckett qui était un one-shot qui sort en janvier d'ailleurs là, chez Panini et on l'avait eu sur l'ascension de Kylo Ren aussi, donc c'est quand même quelqu'un qui a un certain talent là. Donc c'est ça, en termes de d'attente et de... Sinon, ben tu dirais avec la critique, c'est ça, on a cinq histoires. Bon, la principale, personnellement, je l'ai trouvée vraiment peu intéressante, celle des fameux chasseurs de primes, tout ça. Dans l'équipe, hein, je l'ai pas mentionné, mais on a un j'oublie toujours le nom de la race, là, mais un alien.
Un Claudite.
Un Claudite, c'est ça, qui peut se métamorphoser en ce qu'il veut. C'est toujours... pour une histoire de mercenaires, de justement de contrebandiers, tout ça, c'est toujours pratique d'avoir quelqu'un comme ça dans son équipe. Mais c'est ça, en comics, à chaque fois, je trouve que ça crée quand même un petit côté dur à suivre un petit peu. Là, où, même qu'on en a deux, si je me trompe pas dans l'équipe, là, mais ouais. Dans cette histoire-là. Fait que c'est ça, la principale un peu moins intéressante, j'ai trouvé sans charisme, honnêtement. La chef de l'équipe, là, c'est une femme humaine... sans intérêt, et évidemment comme dans toute équipe de ce genre-là, il y a un autre partenaire aussi, que c'est le bourrin de l'équipe, là, la brute, on va dire, les muscles de l'équipe. Fait que c'est ça, c'est à oublier. Personnellement, là, ça fait deux albums qu'on les a, cette équipe-là, je serais pas déçu qu'on les retrouve pas, là. C'est vraiment...
Non, bah, c'est vraiment l'équipe lambda qu'on retrouve, enfin, l'équipe fonction, en fait. On a besoin d'une... pour raconter l'histoire, d'avoir des personnages. Et en fait, ces personnages ne sont pas importants. Ce sont pas eux sur lesquels repose le récit. Et du coup, ben, ça se ressent aussi. Donc, voilà. Par contre, ils sont poursuivis par une équipe de Stormtrooper du Premier Ordre que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant que cette équipe de contrebandiers. Donc c'est quand même assez... Et pourtant, ils sont pas développés dans l'histoire. Donc c'est assez ironique.
Et j'allais dire, dans le fond, évidemment, il y a le petit côté artefact Jedi qui peut être intéressant dans l'aspect au présent, là. Par exemple, il y a certaines personnes, c'est ce qu'ils aimaient de la série Dr. Aphra au départ. Un petit côté, justement, à Indiana Jones, là, à la recherche d'artefacts, tout ça. Dès qu'il est question des anciens Sith, des anciens Jedi, tout ça, ça pique la curiosité, là. Mais c'est ça. Moi, je dirais que c'est Doc Ondar, donc le fameux Itorien, là, antiquaire. Et Hondo Hanaka, donc notre pirate préféré, là, qui vole un peu la vedette, entre guillemets, là, de l'histoire au présent. Rendre ça un peu plus intéressant.
Bah, ouais, mais en fait, au final, ça reste lui le héros de la série, puisqu'en plus, c'est un personnage de Galaxy's Edge.
Tu parles de Hondo Hanaka, ça?
Non, je parle de Doc Ondar.
Doc Ondar, ouais.
Quelque part, il y a quand même, on va dire, une certaine cohérence, là. Mm-hmm. Une certaine cohérence.
Oui, oui, tout à fait. Puis c'est les gens, je vous invite peut-être à aller voir le Star Wars 101 que j'avais fait sur les parcs Galaxy's Edge. On voit Doc Ondar là, parce que c'est ça que les gens qui visitent le parc peuvent aller dans sa boutique là et l'approcher. Et c'est très très bien fait comme animatronique là. Je dois avouer que ça a l'air très intéressant, même si j'ai pas la chance d'y être allé personnellement. Sinon, rapidement sur les récits racontés. C'est quand même mieux. Moi, j'ai trouvé que l'intérêt était là-dedans, dans ce qui est raconté. Écoute, celui d'Han Solo et Chewbacca, on a carrément une colonie de Sarlacc. Donc, les gens qui... ça vient créer tout un canon autour des Sarlacc. Donc, c'est ça, il y en a un peu partout dans la galaxie. Ils sont carrément cultivés d'une ferme de Sarlacc. Donc, de bébés à devenir gigantesques. Mais ça aussi, ça fait écho au parc, parce que les gens qui vont dans la boutique de Doc Ondar peuvent voir le bébé Sarlacc dans une espèce d'aquarium, de terrarium, on va dire, et c'est celui que Han Solo va aller récupérer pour Doc Ondar, donc c'est ça. C'est le genre de lien que je trouve, quand tu disais tantôt, on a un produit purement marketing, mais les auteurs ont réussi quand même à créer des choses intéressantes ici et là. Je me suis noté aussi celle-là de Greedo, j'ai bien apprécié. On a Greedo qui va récupérer de son côté le sabre de Ki-Adi-Mundi, hein, le maître Jedi là. Bon, j'allais dire exécuté par des clones, ils sont tous exécutés par des clones, mais un de ceux qu'on voit au cinéma, hein, qu'on voit dans la
revanche. Non, pas tous.
Ouais, pas tous. Mais bref, c'est ça, un petit côté prélogique, hein, que j'ai trouvé bien le fun. Greedo, c'est un personnage que j'ai toujours trouvé quand même intéressant, même si au cinéma, on le voit en quelques secondes, puis il meurt, là. Mais c'est ça, ceux qui ont joué à Battlefront ont pu profiter de lui un peu. Sinon, on a les gardiens des Whis, comme j'ai mentionné, là, dont Chirrut, que je trouve ça intéressant de c'est ça, de retrouver un casse, là. C'est ça, un peu comme si Indiana Jones dévalisait un temple.
Ben, ils vont voler la relique dans le temple, hein. C'est vraiment du c'est Indiana Jones tout craché, quoi.
Ben, c'est ça, d'avoir les gardiens des Whis à l'époque où il y avait un temple à protéger, donc avant les événements de Rogue One. Et enfin, ben, c'est ça, une Dr. Aphra, et vraiment une Dr. Aphra dans le style Indiana Jones. Donc pas comme les plus récents albums, mais vraiment comme le premier. Et peut-être le deuxième aussi, je crois, qu'on était sur. Puis dans le fond, ça se passe sur Moraban, donc les connaisseurs du petit univers Star Wars là, se souviendront de ce nom-là, Moraban.
Le monde des Sith.
Exact, avec un temple en pyramide là, qu'on a déjà vu quelques fois. Côté graphique, j'ai dit qu'on en reparlait tantôt, les couvertures, la première, celle qui a été utilisée justement pour l'album de Panini, je trouve ça très intéressant, c'est celle de Rodriguez, je prononce sûrement pas comme faux, mais bon, peu importe. Par contre, les quatre autres, j'ai trouvé ça catastrophique. Je sais qu'il y en a qui aiment ce style-là, ceux de Tommy Lee Edwards, je sais pas ce que t'en as pensé, Loïc, moi ça m'agresse, j'ai envie de faire une crise d'épilepsie quand je regarde ça. Trop de détails, trop de couleurs, trop de tout, là.
Ben, en fait, le souci, c'est que... Alors, toi, je sais que tu apprécies beaucoup de regarder les couvertures et tout ça, et moi, je les tourne souvent comme si c'était la pub d'un comics, en fait, si tu veux. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, j'en viens à ne pas les regarder, ce qui parfois est pas correct, j'en conviens, parce qu'il y en a des fois des très belles. Alors, pour qu'elles me tapent dans l'œil, vraiment, c'est que... Vraiment, vraiment, déjà, je les ai trouvées vraiment bien. Mm-hmm. Alors, je suis en train de regarder, effectivement, c'est... ça fait un peu l'Empire des Ténèbres, en fait, ces couvertures-là, je trouve. Donc, elles ont un côté années 90, un peu... un petit peu prononcé, on va dire.
Ouais, et puis c'est ça. Énormément de détails. Mais enfin, comme tu dis, ce n'est que les couvertures. Mais c'est ça. Moi, je me dis toujours... puis je sais que dans le petit monde des comics, ça, les couvertures, ça a ses particularités. Hein. Souvent, c'est trompeur. Ça reproduit quelque chose qu'on verra pas dans le comics en tant que tel. Mais c'est ça. Moi, je me dis, quand je vais en librairie... par exemple des livres, la couverture a besoin d'attirer l'œil. Donc, et souvent la couverture en elle-même, ça va être une petite œuvre d'art aussi. C'était mon mot de promotion de cet art-là. Je sais pas s'il y a un numéro, hein, tu sais, le 11e art ou quelque chose comme ça. Mais bref, c'est ça. Au moins la première était.
C'est le 9e art. La bande dessinée est considérée mm-hmm. comme le 9e art.
Ben c'est ça, fait que les couvertures, ça pourrait être le 9.5 ou quelque chose comme ça. Bref, et pour ce qui est de l'intérieur, ben c'est quand même assez joli. J'ai trouvé que Slaney faisait la job, comme on dit ici, là, mais sans nous émerveiller. Là, j'ai pas eu de « wow ». Même si certaines planches pleines grandeur, là, on se sentait au parc, on revoyait toutes les images qu'on a vues des parcs d'attractions jusqu'à maintenant. Donc, ou par exemple, ceux qui ont joué aux Sims... Cécilie a fait quelques lives là, sur le Twitch de Star Wars en direct, là, des Sims version Galaxy's Edge, version Star Wars. Bref, c'est ça, c'était quand même efficace. C'est quand même dynamique aussi, puis ceux qui aiment ça coloré, ben c'est ça, c'est coloré, c'est précis. Mais c'est ça, j'ai trouvé qu'il y avait un style générique, on va dire, fait à la chaîne. Là, ou c'est ça, moi personnellement, c'est pas un style qui me marque. Comment t'as trouvé ça là?
Eh ben, je suis pas du tout d'accord avec toi.
Ah,
non, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très efficace, qu'il y avait un côté très dynamique dans tout cet ensemble et que ça rendait très bien. Enfin, j'imaginais volontiers ces épisodes en version animée à la Galaxy of Heroes, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc...
Adventure, Galaxy of Adventure.
Ouais, voilà. Bon, vous avez capté l'idée. C'était ça que j'avais comme visuel. Donc non, franchement, j'ai vraiment été bien agréablement surpris par le côté graphique. Il y a un élément qui est souvent déterminant pour moi, c'est justement la capacité d'un dessinateur à rendre les Stormtroopers justement vraiment correctement proportionnés, et je sais au combien c'est difficile, et là ils sont absolument parfaits, quelle que soit leur pose, quel que soit l'angle de caméra qui a été choisi, ils sont extrêmement bien faits. Il y a ça et les vaisseaux, les vaisseaux qui sont assez réussis aussi. Quant à ma critique plus en détail pour ces épisodes, j'ai beaucoup apprécié en fait l'ensemble de ce qui était proposé. Même si j'ai une préférence pour l'épisode de Han Solo et Chewbacca, parce que j'ai trouvé que toute cette mythologie autour du Sarlacc était assez intrigante et intéressante, et ça fait très Star Wars dans l'idée, c'est-à-dire que voilà, la galaxie est vaste et qu'on peut apporter de nouvelles choses avec des éléments connus déjà. Pour la partie sur le Rodien, j'ai adoré en fait qu'on mélange la période trilogie originale et prélogie, puisque ce que je reproche beaucoup au nouveau canon, c'est de ne plus nous ramener dans des planètes connues, hein, hormis Tatooine évidemment, mais je veux dire des planètes plus foisonnantes comme on a pu voir dans la prélogie. Et là voilà, même si c'est sur le papier, Mygeto c'est une planète de la prélogie, et c'est une planète qu'on retrouve avec des personnages de la trilogie originale mélangés, le clan bancaire avec Greedo, etc. Ça m'a vraiment... vraiment bien, ça j'ai vraiment bien apprécié. Et puis la partie avec le temple Kyber, moi j'ai eu un petit bémol sur l'artefact qu'ils vont chercher, puisque c'est un une espèce de statue en cristal kyber. J'ai eu du mal à me... On est plus dans une thématique un peu asiatique dans l'idée, mais j'ai eu du mal à... Je croyais que ça faisait pas complètement... J'étais pas complètement dans l'univers de Star Wars quand je lisais cette histoire, malgré l'apparition de Chirrut et les gardiens des Bills. Bon, après, voilà, ça reste anecdotique, hein. On parle d'une mini-histoire au sein d'une histoire, donc voilà, on va pas en faire tout un pataquès.
J'ai pas vérifié, hein, mais j'ai l'impression que c'est probablement aussi un artefact qu'on peut apercevoir dans la boutique de Dokkanda, dans les parcs.
Oui, c'est possible.
J'ai l'impression que c'est probablement
bon, j'ai pas poussé non plus, effectivement, la vérification. Moi, je m'en suis vraiment tenu, on va dire, à l'univers Star Wars en lui-même, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de lien avec ce que nous avons dans notre... réalité, on va dire. Mm-hmm. Voilà, je m'en suis tenu vraiment à ce qu'il y avait à l'intérieur des pages. Et puis, alors voilà, bah les l'épisode avec Aphra. Donc, je sais que tu redoutes les mots que je vais prononcer sur cet épisode, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, attention, c'est vraiment la version d'Aphra que j'aime. Voilà, que celle que j'aimerais lire, plus souvent, que malheureusement je ne retrouve pas et surtout pas dans les albums les plus récents qui seront également chroniqués bientôt, puisque là aussi nous avons du retard. Et donc voilà, donc il y a quand même des auteurs qui sont capables de nous faire des choses intéressantes avec Aphra. Voilà, j'en attends plus, comme je le répète à chaque émission. Peut-être que nos auditeurs vont commencer à en avoir marre de m'entendre dire ça, mais bon, ben, je croise les doigts et un jour peut-être que mon souhait sera exaucé. Donc voilà, pour ce volume Star Wars Galaxy's Edge, moi j'ai vraiment passé un bon moment. En plus, je dois dire qu'après une première lecture, bon, ça reste quand même, on va dire, oubliable, puisqu'il n'y a pas de, y a pas d'histoire qui fait avancer, en fait, la grande histoire. Mais, bah, du coup, ça a été d'autant plus agréable d'y revenir pour le relire une seconde fois. Voilà, le fait d'essayer d'allier, d'allier les deux, c'est un album, je pense, qui a une relecture assez facile. Mm-hmm. Donc, voilà, Ouais, moi j'ai été conquis par ça. Alors, je voudrais pas forcément avoir une série régulière hein, sur ce type de... Voilà, mais pourquoi pas, de temps en temps, une nouvelle incursion dans l'univers de Galaxy's Edge avec un volume 2, Galaxy's Edge Adventures, Galaxy's Edge Infinities, ou ce genre de choses. Ouais, vraiment, moi j'y reviendrai volontiers.
Ouais, ben en fait, je serais assez d'accord avec toi, surtout si on connecte ça un petit peu plus avec les autres œuvres liées à Galaxy's Edge. Parce que là, on a Hondo Hanako et Doc Andor qui relient ça, là, mais tu sais, tout l'aspect des trois mercenaires, là, puis tout ça, on n'a jamais entendu parler dans les livres ou tout ça. Là, je sais pas si tu as eu l'occasion de lire les autres œuvres.
Bah non, ils sont pas encore sortis en version française, ouais. Donc non. Mais... Je n'ai rien lu. Moi, le seul produit que j'ai lu autour de justement de Galaxy's Edge, c'est ce comics.
Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi par contre, effectivement, sur une autre histoire, ça pourrait être, je serais quand même preneur pour un volume 2, surtout en fait si les auteurs réussissent à aller chercher des anecdotes, on va dire, là, ou des petites histoires en parallèle aussi intéressantes que dans celle-là.
Ben écoute, moi je vais lui donner une note, et puis tu vas pouvoir également nous gratifier de la tienne, donc pour ma part, ce sera un bon 15 sur 20, voilà, c'est... Je pense que c'est un album qui vaut vraiment le coup d'avoir dans sa collection, ne serait-ce que par le format, hein, un peu justement, un peu particulier d'avoir un produit dérivé d'une attraction Star Wars, mais en plus qui est plutôt sympa.
Mm-hmm. Ben écoute, je te rejoins quand même pas mal, juste pour résumer en conclusion, dans le fond c'est ça, je trouve ça anecdotique, on en garde peu de souvenirs marquants. Le plus gros étant peut-être le bébé Sarlacc, le fameux bébé Sarlacc, mais tant qu'à faire un produit pure marketing, je trouve qu'ils ont eu des bonnes idées, donc puis évidemment je comprends le but là, de meubler avec des personnages connus, tout ça, histoire de rendre ça intéressant et de vendre des copies, mais dans le fond, malgré ça, je crois que la faiblesse du récit au présent, on va dire, des fameux mercenaires, tout ça, et en bonne partie lié à la présence aussi des flashbacks, dans le sens qu'à un moment donné, quand tu as juste une poignée de pages par numéro pour développer ton récit, ben là, ça commence à être difficile de créer quelque chose d'intéressant. Donc, à ce moment-là, ça aurait peut-être été mieux, en tout cas cette partie-là, si on avait vraiment eu une aventure 100% à Black Spire, hein, tu sais.
Mais... Ben, tu as quand même les deux épisodes d'Aphra qui forment un peu la, le début et la conclusion de l'histoire fil rouge des trois épisodes d'avant. Donc, quelque part, effectivement, le seul moyen de boucler son histoire, c'était d'utiliser une partie des récits pour développer son fil rouge.
Ouais, ouais.
Et ça, je trouve que ça a été fait quand même assez intelligemment.
Ouais, non, c'est ça. Je trouve que l'exécution au niveau du scénario là, de Ethan Sachs, là, c'est quand même très bien. C'est bien monté. Pas mal mieux, en fait, qu'Allégeance qui nous avait servi là, peu de temps après. Bref, c'est ça. Je trouve qu'il y a vraiment une plus-value, là, entre autres, pour vraiment en tandem avec une visite au parc. Donc ça, clairement, je trouve que comme produit dérivé, à lire soit avant d'aller au parc ou sur place ou juste après en revenant dans l'avion par exemple fait que ça je trouve ça très réussi comme je disais un petit peu moins convaincu par le dessin que toi fait que tu vois moi je lui donne un 14 sur 20 quand même très près de ta note.
C'est quand même bien, quand même bien. Et on n'a pas on va faire un petit point Tom quand même puisque dans ce volume on a vraiment beaucoup d'aliens connus de l'univers Star Wars.
C'est vrai.
Et c'est vraiment foisonnant et ça rajoute je trouve à cette ambiance et je pense qu'effectivement dans le futur Disney gagnerait à avoir plus de cast members avec des costumes extraterrestres qui se baladeraient à Batuu.
Oui, c'est vrai que pour ceux qui se baladent, comme tu dis, parce que dans le fond, on va le mentionner pour ceux qui ne sauraient pas du tout de quoi on parle, c'est pas juste un parc d'attractions, des manèges, puis c'est tout. Là. C'est vraiment une immersion. Quand vous êtes dans le parc, tous les employés de l'endroit, c'est considéré comme des personnages de l'univers Star Wars. Vous pouvez interagir avec eux. Puis ça va du vendeur de boissons jusqu'à... vraiment, il y a des acteurs payés là, pour interagir avec le public. Évidemment, c'est beaucoup pour les plus jeunes, mais et dont certains qui incarnent des personnages justement des livres. Donc, mais comme tu dis, je crois pas qu'il y en ait version alien. Peut-être une question aussi de chaleur
pas.
Des costumes.
Ah ben, probablement.
On est en Californie et en Floride.
Franchement, s'ils sont capables de porter un costume de Mickey pendant 2 heures, ils sont capables de porter un masque de Rodien pendant 2 heures. Hein.
C'est
franchement,
pas faux.
Je vois pas
c'est
la
pas
différence.
Faux. C'est vrai.
Mais oui, non, ce sont principalement des personnages humains allant de Vimorandi, donc l'espionne rebelle, donc tu mentionnais qu'il y a une actrice qui joue le rôle dans le parc, jusqu'à Kylo Ren, en passant par des escouades de Stormtroopers qui interagissent directement avec le public en demandant les papiers ou en demandant ce qu'il y a dans les paquets, enfin dans les sacs, etc. Donc vraiment, voilà, tu as bien fait de le rappeler, c'est une immersion au sein de l'univers Star Wars. C'est pas juste un parc d'attractions lambda.
Mais c'est vrai, je pense en Alien, il y a Chewbacca. Donc si je me trompe pas là. Comme,
oui.
Comme
bah, je sais pas s'il est là. Bah, il est pas là de manière permanente.
Bah, je pense que les gens peuvent le croiser ici et là dans le parc.
Ouais, mais dans le parc, on pouvait le trouver aussi dans le parc normal avant l'ouverture de Galaxy's Edge au niveau du Star Tour. Donc, mais vraiment, ouais, peut-être que après, voilà, Disney en est au tout début de cette vague un peu immersive, puisqu'ils n'ont pas encore fait leur hôtel Star Wars qui arrive et qui sera basé sur le même concept.
Ouais.
Donc il y a vraiment quelque chose encore pour eux à creuser. Et peut-être, pourquoi pas, s'inspirer de ce comics, ce qui serait un juste retour des choses pour un comics qui s'est inspiré de l'attraction. Quoi. Voilà. Et, ben voilà, Francis, maintenant qu'on a fini notre voyage, je te propose qu'on se pose et puis qu'on partage un petit peu les petites choses qu'on a envie avant de se quitter.
Chers passagers, nous approchons de Garel. Veuillez vous tenir prêts pour l'atterrissage.
Mais nous voilà donc posés au spatioport. Maintenant, moi j'avais envie de partager quelque chose qui... Alors je vais donner un petit peu mon avis, parce que je n'avais pas encore eu l'occasion de le faire sur toute la saison 2 du Mandalorian. Mais avant ça, j'aimerais adresser en onde un grand merci à un de nos auditeurs fidèles que l'on retrouve sur Discord également, avec qui j'interagis beaucoup, et puis au détour d'une conversation Discord, comme ça, sur le ton de la déconnade, il avait dit qu'il avait reçu, donc il avait partagé sa réception du livre des archives Star Wars épisode 4, 5, 6, Et puis, comme ça, Sylvain lui dit « Ah, bah tiens, je t'envoie mon adresse et tout. » Et puis, moi, j'avais posté à la suite de Sylvain « Bah moi aussi, si t'en as un, je le prends, etc. » Et en fait, il a répondu, donc il est rentré dans le jeu, il a répondu que le premier qui envoyait son adresse en MP, il lui envoyait le livre. J'ai envoyé mon adresse en MP parce que j'y croyais vraiment pas du tout qu'il le ferait, et puis en fait il l'a fait. Donc, j'ai reçu de la part d'un de nos auditeurs un cadeau, et c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Donc je tenais à le remercier vraiment du fond du cœur, Grand Amiral Fab. Ça m'a beaucoup touché en tout cas, parce que c'était vraiment lancé sur le ton de la déconnade, et il n'y avait pas de réelle pensée de ma part de l'avoir, parce que sincèrement, de toute façon, j'avais prévu de l'acheter, donc c'était pas un souci à ce niveau-là. Mais voilà, ça m'a fait vraiment plaisir, donc je ne l'ai pas encore attaqué. C'est vrai que j'ai pas eu le temps, ce mois de décembre a été assez rempli, mais je l'ai feuilleté, les enfants aussi, et ça a l'air vraiment d'être un très beau bouquin avec beaucoup d'informations. C'est pas la version format géant, hein, c'est la version rétrécie, donc qui était ressortie récemment. Mm-hmm. Et au final, je pense que ça s'apprécie très bien de cette façon-là aussi. Ouais. Donc voilà, un grand merci, grand merci.
On le salue, Grand Amiral Fab, qui est très présent sur notre Discord, avec qui on a régulièrement l'occasion d'interagir. Donc c'est toujours bien le fun d'avoir ses avis là, sur que ce soit sur les émissions. Ou sur le Discord, on part sur tous les sujets imaginables. Ouais. Là, donc.
Ouais, et puis, on a des longues discussions, et si vous la suivez pas, vous arrivez, il y a 90 messages à relire, c'est un peu... des fois, c'est un peu compliqué.
Ouais.
Donc je vais partager mon petit avis rapide, hein, bien sûr, on va pas rentrer dans le détail, de la saison 2 de Mandalorian. Comme dirait Francis, j'ai pas détesté du tout cette saison. Je l'ai même beaucoup apprécié, et à ma grande surprise, il n'y a pas un seul épisode que je n'ai pas aimé, même si, bien sûr, dans certains épisodes, on trouve des défauts, notamment sur l'épisode fan-film de Robert Rodriguez. Mais franchement, c'était un réel plaisir de regarder cette saison 2. C'était les montagnes russes à chaque épisode. Ça montait, ça descendait, les émotions, toutes sortes d'émotions. Et j'ai hâte de retrouver Mando dans une... peut-être dans une nouvelle phase de sa vie, sans gros goût. Vraiment excité. C'est une saison que j'ai envie de réécouter, que j'ai envie de revoir, parce que je pense qu'il y a encore une fois beaucoup à en dire. Peut-être qu'un second visionnage, histoire que quand on connaît la finalité, ça va apporter une autre vision de la chose, et ça peut être vraiment, 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 vraiment sympa. Donc merci Monsieur Filoni. Merci Monsieur Favreau de nous avoir fait rêver comme ça avait pas été fait depuis longtemps. Voilà, on va se l'avouer aussi. Enfin, je le dis, je pense que ça surprendra personne en tout cas. Mais voilà, c'est peut-être une nouvelle ère Star Wars qui s'ouvre. Peut-être que c'est pas au cinéma. Peut-être que ce n'est pas sur un grand écran. Mais en tout cas, moi, si ça me fait vibrer la vibe Star Wars comme ça, pour moi, c'est un grand oui.
Et depuis que c'est sorti, je pense qu'on peut se permettre de spoiler, Loïc, mais qu'est-ce que t'as pensé de la fameuse scène finale post-générique qui annonce le futur projet?
Alors, je suis pas un grand fan de Boba Fett dans, on va dire, sa globalité.
Ça y est, on va recevoir des insultes de Sylvain.
Ben justement, Sylvain n'a pas assez insisté dans le débrief du dernier épisode sur le fait que j'avais raison quand je martelais que Boba n'était pas un Mandalorien. Donc, ouais. Vu qu'il l'a reconnu en off, je me permets de le dire en onde. Mais et oui, j'ai les preuves, hein, j'ai les captures d'écran. Mais j'ai été surpris. Enfin, on attendait une série Boba Fett. Je veux dire, le fait de le faire revenir, pour moi, il n'y avait pas trop de doutes. Je m'attendais pas à ce qu'il l'annonce comme ça tout de suite. Je m'attendais pas à ce qu'elle arrive dès l'année prochaine. Pourquoi pas? Franchement, je trouve que ce qui a été fait ces dernières années, ça m'a prouvé que les auteurs arrivaient à me faire apprécier des concepts ou des situations que d'habitude ne me parlent pas dans Star Wars. C'est pas forcément ces choses-là que j'apprécie. Mais finalement, ils y arrivent par beaucoup de talent, par beaucoup d'amour de la saga. Et ben, j'ai envie de leur laisser une chance et puis de ne rien attendre et d'être éventuellement agréablement surpris au visionnage, quoi. Voilà.
Oui, puis on peut dire maintenant, là, on est quelques temps après, donc ça a été précisé qu'on va avoir droit à l'événement Boba Fett. Là, on ne sait pas encore, ça va être une série, mais ça, on ne sait pas exactement l'ampleur de la série, là, probablement juste quelques épisodes. Mais ça va être avant la troisième saison du Mandalorian. Donc, normalement, en décembre l'année prochaine, si le COVID peut nous foutre la paix,
Ils sont pas trop embêtés, puisqu'il n'y a pas de tournage en extérieur. Il n'y a pas d'équipe à déplacer, donc finalement, grâce au volume, ils peuvent continuer à
tourner. Il y en a quand même quelques-uns, parce que oui, tu as raison, ça n'a pas retardé la deuxième saison. Mais je ne sais pas si tu as pris le Making of, qui est maintenant disponible
pas encore.
Sur Disney+. Et à la surprise, on va dire, de certains, il y a quand même de l'extérieur, un peu. Entre autres, tu mentionnais l'épisode de Robert Rodriguez. Ouais. Justement, c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup en extérieur.
Bah, ça sent, hein, ça sent quand même qu'il y a un côté pierre réaliste et tout ça pour cet épisode.
Ouais. Donc, bref, c'est ça, je t'invite à aller le voir. Malheureusement, c'est pas 8 épisodes de Making of comme avec la première saison, c'est vraiment un seul. Mais c'est toujours aussi intéressant quand même de voir les coulisses, même si ça passe évidemment beaucoup plus vite que la dernière fois.
Mais j'ai prévu de le regarder, hein, puisque... Alors, je m'étais un peu ennuyé pendant les 8 épisodes de la première saison de Making of, donc moi, je suis assez content, au contraire, qu'il n'y ait qu'un seul épisode. J'espère que ce sera un peu plus condensé. Alors maintenant, du coup, je suis quand même en train de revenir sur les épisodes du Making of de la première saison pour justement essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne ce volume, parce que je dois dire que je suis assez bluffé par le rendu. Et même, par exemple, je vais citer un exemple. C'était dans le premier épisode, donc là où il y a le client, donc dans la première saison. C'est un bâtiment, donc et en fait ce bâtiment, à l'intérieur de ce bâtiment, il y a très peu d'éléments de décor construits, et c'est quasiment le volume qui représente toute la pièce. Et vraiment ça m'intrigue, donc vraiment je reviens, mais juste pour le côté volume et le côté de la marionnette de Baby Yoda, et c'est les deux seuls aspects sur lesquels j'ai vraiment envie d'avoir des renseignements, quoi.
Justement, effectivement, dans le deuxième le making of de la deuxième saison, on apprend qu'ils ont grossi pas mal quand même le volume, donc on a quelque chose de plus grand et de plus haut, donc pour faire des quelque chose d'encore plus réaliste, et c'est quelque chose, hein, qu'ils ont été les premiers à vraiment réaliser sous cette forme là donc vraiment là, chapeau à Lucasfilm, mais ça se répand très vite là. Donc j'apprenais que même ici au Québec là, donc dans les studios Melz à Montréal, que les Québécois connaissent parce que toutes les grosses productions sont faites là, et même aussi les films américains quand ils viennent tourner sont faits à Montréal, souvent ça va être chez Melz, et c'est ça, même chez Melz sont en pleine construction d'un volume. On va appeler ça comme ça. Je sais pas comment eux vont l'appeler. Mais je sais pas si ça va être évidemment le même niveau technologique aussi bien fait que celui de Lucasfilm. Mais je crois que l'idée d'avoir toujours l'éclairage parfait pour l'interaction des acteurs, tout ça, c'est que tout soit semble réel dès le départ, je crois que ça se répand très rapidement dans l'industrie. Là, donc faut s'attendre à ce que Lucasfilm ait pas l'exclusivité très très longtemps.
En toute sincérité, je pense qu'encore une fois, et en les réécoutant en parler, j'ai l'impression, encore une fois, que Lucasfilm vient de révolutionner complètement, peut-être, les effets spéciaux, mais vient d'ajouter une nouvelle pierre, comme ils l'ont fait avec la prélogie et comme ils l'ont fait avec la trilogie originale.
Effectivement, ils restent à l'avant-garde. Hein. C'est eux qui avaient beaucoup développé le concept des écrans bleus ouverts, là, à l'époque des années 80, 70 et 80. Fait que c'est ça, je t'invite à aller prendre ça, et les auditeurs, là, ceux qui ne l'auraient pas encore pris, c'est un peu passé inaperçu vu que ça tombe dans une journée de Noël quand c'est sorti, puis tout ça, là, fait que les gens sont peut-être pas nécessairement devant leur télé, quoique cette année, comme on veut pas avoir de party de famille, c'est peut-être le cas, c'est ça, on a moins d'entrevues, tout ça, donc tu vas peut-être plus apprécier, parce que c'est plus succinct que la première
série. J'espère.
Ben, je suis content d'avoir eu ton avis parce que effectivement, on t'avait pas eu sur les différents épisodes liés à la série.
Si, j'avais fait celui juste avant Ahsoka, quand ils sont avec la partie dans la base impériale, avec... non, celui d'après. Celui où ils sont sur Nevarro.
Et
ils
vont avec la course-poursuite.
Avec les Dark Troopers, etc.
Mmh. Ouais, c'est vrai, ça. Mais bref, c'est ça. Et je en tout cas, on s'avancera pas, mais je crois qu'il y avait peut-être un projet d'épisode pour toute la saison 2, hein, de recap de la saison 2 là, en chantier, donc je sais pas.
Oui, un recap si possible en faisant intervenir un peu nos auditeurs pour les remercier aussi de leur participation hein, sur notre Discord tout au long de cette année et tout au long de cette saison. Ça a beaucoup, beaucoup discuté. Donc voilà, on aurait vraiment envie de faire une émission comme ça et de leur accorder un peu la parole. Donc, guettez pour le début d'année, ça devrait arriver. Ben voilà, c'est sur ces bons mots que nous allons conclure cette édition, donc littérature de Star Wars en direct. Donc pour rejoindre Francis et moi, bien sûr, ben comme d'habitude, vous pouvez sur notre serveur Discord et à la fois sur nos réseaux sociaux, surtout sur Facebook, ben vous pourrez interagir avec nous assez facilement. Et si vous avez des suggestions, des commentaires, des réactions sur ces sujets que nous venons de discuter, laissez-nous donc aussi un message sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur la chaîne YouTube. Et venez nous rejoindre donc sur Discord, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est de plus en plus agréable de vous découvrir et de discuter avec vous. N'hésitez pas à partager cet épisode et nos autres épisodes pour augmenter notre visibilité, faites-en profiter également vos amis. Voilà, donc et pour nous retrouver, donc comme d'habitude sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast et Apple Podcast. Donc, au nom de Francis, au nom de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.